Voilà, je vous ai parlé déjà la semaine passée des liens spirituels, d'accord, des liens spirituels, plus précisément des liens spirituels démoniaques, parce que nous, chrétiens aussi, nous pouvons avoir ce qu'on appelle des liens spirituels démoniaques. J'ai un peu expliqué ce que c'était. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit la semaine passée. D'accord? Enfin, on se répète toujours un peu, mais voilà, ce n'est pas mon but en tout cas. Et donc, la semaine passée, finalement, on a parlé de ça. On a fait une petite introduction sur le sujet. Voilà, une petite introduction pour quand même expliquer de quoi il s'agit. Hein, d'accord? Pour résumer tout simplement, un lien spirituel, ben, ça veut dire que même un chrétien, il se convertit. Bon, le jour où il se convertit, le jour où il donne sa vie à Dieu, mais il vient avec un bagage. Et donc, il doit avancer avec ce bagage. Et on dit, oui, toutes choses anciennes sont passées, mais non, il y a des choses. Oui, il y a des choses, c'est vrai, qui tombent. Mais parfois, il y a des choses qui ne tombent pas. Parfois, il y a, à cause de certaines choses pratiquées, que je ne vais pas énumérer maintenant, le chrétien peut être lié dans certains domaines. Et puis au cours de sa vie aussi, de sa marche avec Dieu, on peut faire aussi des mauvais choix qui font que l'ennemi arrive à nous tenir vraiment, on va dire, dans tel ou tel domaine. Et donc on appelle ça un lien spirituel souvent. Bon voilà, c'est un peu notre jargon, on va dire ça comme ça. Et ce que j'ai voulu faire donc la semaine passée surtout, c'est donner une réponse aux doutes et aux mensonges qu'il y a dans nos vies, parce que c'est comme je viens de le dire tout à l'heure, Satan est l'accusateur, il est toujours en train de nous mentir, et il ne cesse pas de nous parler. Et le problème, c'est que quand on n'est pas, justement, on n'est pas suffisamment, et la plupart du temps, c'est comme ça, on n'est pas suffisamment connecté à Dieu, on n'est pas suffisamment en relation avec Dieu, et on n'entretient pas notre intimité avec Dieu. Alors finalement, la voix qu'on est le plus habitué à entendre, bien souvent, même quand on est chrétien, c'est la voix de l'ennemi. Parce qu'il ne cesse pas de nous parler, il ne cesse pas de nous accuser, il ne cesse pas de nous mentir. Et donc, en réponse aux doutes et aux mensonges de l'ennemi, on a parlé la semaine passée de la confession de la vérité et de l'obéissance. Et voilà, aujourd'hui, je vais encore un petit peu parler de tout ça, mais de manière différente. Voilà, donc l'importance de croire la vérité, de dire la vérité, de chercher la vérité, pour ne pas se laisser justement abuser par l'ennemi. D'accord? Et bon, donc aujourd'hui, puisque le sujet est d'actualité dans l'Église, n'est-ce pas? Je veux dire ici dans l'Église, le sujet est d'actualité, puisqu'on on a décidé, le Seigneur nous a mis à cœur, je crois que je pourrais dire comme ça, de prier pour des cas difficiles. Bon, ça, il n'y a pas nécessairement des liens spirituels, mais en tout cas, des cas, des problèmes qui durent, des cas difficiles, des gens qui se sentent liés, qui ont difficile d'avancer avec le Seigneur, etc. Et puis, il ne faudrait pas qu'on prie seulement les uns pour les autres, nous tous qui sommes réunis, parce que beaucoup de ces personnes, en réalité, ne sont pas là et ne sont pas présentes aujourd'hui et aux prières à cause de ça et à cause de la culpabilité. Il va falloir faire quelque chose. Il va falloir aussi que l'Église commence à se soucier aussi des uns des autres, à prendre des nouvelles de ceux qu'on ne voit pas. Moi, j'attendais un peu, comme c'est les vacances, on ne sait pas qui est parti, etc. Et je me dis, j'ai dit en septembre, moi je reprends ma parce que vous êtes sur ma liste, hein, et je me dis, je vais reprendre ça, il faut que je reprenne des nouvelles des gens, parce que je ne sais pas, évidemment. Vous savez, les gens partent même en septembre, je sais qu'il y en a qui sont partis maintenant et qui seront partis aussi en septembre. Donc voilà, soit. Il y en a qui ne sont pas là à cause de ça, et il y en a qui sont ici, ou parfois qui sont, peut-être aujourd'hui, mais qui sont parfois absents à cause de ça, à cause de ces difficultés, à cause de la culpabilité aussi, etc. Et donc, voilà, c'est un sujet qui est d'actualité, parce qu'on prie pour ça, parce qu'on va faire aussi une semaine de prière, ou peut-être on ne fera pas que ça, on va voir comment le Saint-Esprit va nous diriger. Mercredi encore, on priera, et on va persévérer, parce qu'il faut que les choses changent dans cette Église. Il faut que les vies changent dans cette Église. Il y a des vies qui doivent changer, des familles qui doivent être transformées. C'est assez que de vivre une vie qui confesse que ce que Dieu dit n'est pas vrai. C'est ça. Ah oui, vous comprenez ce que je veux dire. Alors que certaines vies confessent que ce que Dieu dit et que les promesses de Dieu sont vraies, il y a des vies qui disent le contraire. La bouche dit quelque chose, mais la vie dit le contraire. Et je ne veux pas vous culpabiliser, justement. Je dis que, À Dieu appartient toute la gloire et la puissance. Amen. Et ça doit changer et ça va changer. Par le nom de Jésus, pas par ma bouche, pas par ma parole, pas par mon autorité, mais par le nom de Jésus-Christ. Ça va changer et ça doit changer. Alors voilà, on a le sujet est d'actualité, mais permettez-moi de vous dire que... simplement vous dire, parce que je réfléchissais un peu à ça, j'ai lu beaucoup, etc. Puis voilà, bref, je vous dis pas mes recherches, ce n'est pas important, ce n'est pas intéressant. Mais ce que je peux dire, en tout cas, c'est que on a trop peu de temps, j'ai trop peu de temps pour préparer un enseignement méthodique. Parce que ça pourrait être... ça me fait penser, je parlais avec Jacques Lemaire, ou je ne sais plus si c'était avec le pasteur Christophe Blom ou quoi, je ne sais plus, mais il me disait que... En tout cas, des fois, lui, il faisait une série... peut-être pas d'affilée, mais 20 prédications sur le même thème. Hein, et ça peut être très intéressant, un thème comme ça, on pourrait le faire. Mais pour ça, il ne faut pas préparer un dimanche, puis le dimanche suivant. Non, il faut tout préparer à l'avance. Je n'ai pas le temps. Puis de toute façon, je ne sais pas si c'est nécessaire. Enfin, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas eu le temps pour le faire assez vite. Parce que le sujet est d'actualité, d'accord? Donc, c'est pour ça, c'est juste pour vous dire, on ne va pas faire ça. Ce n'est pas une étude méthodique de démonologie, etc. Non, ce n'est pas ça. Ça va? De toute façon, ce n'est pas possible. Peut-être un jour, on le fera. Ma prière était simple, parce qu'évidemment, je prie quand je prépare. Ma prière était simple. J'ai dit, qu'est-ce que les chrétiens ont besoin d'entendre? C'est souvent ce que je demande, évidemment, pour ne pas dire toujours. Qu'est-ce que les chrétiens ont besoin d'entendre ce dimanche pour marcher avec Dieu et être libérés et trouver la liberté en Christ? Trouver la liberté en Christ. Alors, c'est quoi la liberté en Christ? Alors, certains savent, certains ne savent pas, donc il faut que je répète. La liberté en Christ, on a vu dimanche passé ce que Jésus a dit. On peut l'afficher, mais c'est tout court. Jean, le verset 32, Jean 8, le verset 32, où Jésus dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre, vous affranchira. C'est pour ça que j'ai parlé de la vérité. Le mensonge ne rend pas libre. La vérité, elle affranchit. Je l'ai expliqué la semaine passée. Bon. Mais c'est quoi cette liberté? Est-ce que c'est la liberté de faire... C'est quoi être libre en Christ? Quand Jésus-Christ dit qu'il nous rend libre, c'est quoi? Ça veut dire que... vous savez que ce n'est pas ça, je suppose, hein, pour la plupart. Mais ça ne veut pas dire, je vais être libre, ça veut dire maintenant je vais pouvoir faire ce que je veux. Mais non, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Même Jean Calvin, Luther, etc., mais en d'autres termes, disait ça aussi, parlait aussi de cette liberté. Je l'ai découvert. Avant de savoir quelque chose, on ne le sait pas. Donc forcément, on le découvre à un moment donné. Bon, voilà. Alors, la liberté, c'est quoi, la liberté en Christ? C'est avoir le pouvoir de faire ce que l'on sait devoir faire. C'est ça, la liberté. Je voulais que je vous répète. La liberté en Christ, c'est avoir le pouvoir de faire ce qu'on sait devoir faire. C'est facile à comprendre. Quand tu sais que tu dois faire quelque chose, quand tu sais que tu dois changer quelque chose, quand tu sais que tu dois vivre de telle manière, quand tu sais que quelque chose est bon pour toi, la liberté en Christ, c'est avoir le pouvoir de faire cette chose. Et Christ, vous connaîtrez la vérité. La vérité, c'est tout ce qui est en lui. Il s'est même appelé lui-même, je suis la vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est le connaître lui et tout son enseignement et tout ce qui vient. Voilà. Et quand on le connaît lui en profondeur, on est affranchi normalement. Normalement, oui, pas normalement, on est affranchi. Si on ne l'est pas, il y a un problème. Et on a le pouvoir de devenir libre en Christ, c'est-à-dire avoir ce pouvoir de faire ce que l'on croit et l'on sait devoir faire. C'est ça, être libre. La plupart des gens, la plupart des chrétiens même, je devrais dire, savent ce qu'ils doivent faire, mais ne le font pas. Oui ou non? Oui ou non? Beaucoup de chrétiens savent ce qu'ils doivent faire ou ne plus faire. Ils savent qu'il y a des choses qui doivent changer, mais ça ne change pas. Non ou oui? Oui ou non? Non? Alors pourquoi ça ne change pas? Pourquoi? Est-ce que c'est... parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de le faire, parce qu'ils sont liés, ou peut-être pas. Ou peut-être pas. Je ne sais pas. La raison est peut-être autre. Alors, si vous voulez être libre, et j'espère que vous le voulez, parce que parfois, c'est simplement la raison, c'est qu'on ne veut pas. Ah ouais, on aime sa prison. C'est quand on avait... Je crois qu'il y a une parole comme ça, récemment, voilà, quelqu'un a une vision. Ah, tu es en prison, là, la porte est ouverte. Je me rappelle de ça, ben oui. Voilà. C'est souvent comme ça, hein. Enfin, je vais même dire, c'est toujours comme ça qu'un chrétien, voilà. Alors, donc, si vous voulez être libre, et j'espère que c'est le cas, j'ai trois choses à vous dire. Trois choses à vous dire. Parce que j'aimerais répondre à cette question qu'on se pose. Comme je vous dis, je ne vais pas faire une étude méthodologique, je ne sais pas quoi, sur démonologie, etc. Non, mais j'ai trois choses à vous dire. Parce que j'aimerais apporter encore aujourd'hui une réponse à cette question-là. Parce que le but, c'est bien, on peut faire une étude, ce serait vraiment très intéressant, mais le but aujourd'hui, c'est que ça change. C'est ça, le but, c'est que ça change. Alors, la première chose que j'ai à vous dire aujourd'hui, c'est ceci. C'est une réponse à... Donc, comment être libre? Une réponse à que dois-je faire? Et le premier des points, c'est celui-ci, c'est la prière de délivrance. Et je vous dis tout de suite qu'on commence par la fin. Je fais les choses à l'envers. Je le fais exprès, évidemment. Vous allez voir pourquoi à la fin. La prière de délivrance. Pourquoi j'en parle? Ben, j'en parle parce qu'elle est biblique. Tout simplement. Les disciples ont pratiqué la prière de délivrance, les apôtres ont pratiqué la prière de délivrance, Jésus lui-même a pratiqué la prière de délivrance. Regardez Marie-Madeleine qui était possédée, n'est-ce pas? Quelle nouvelle vie, après que Jésus ait chassé les puissances occultes. Elle est biblique. On voit, je pourrais citer plein de textes, je pense à eux, où dans Acte 16, c'est de bon ton dans nos églises, et c'est bien, il faut continuer comme ça, de citer les références, n'est-ce pas? Dans Acte 16, verset 18, pour vérifier si on ne dit pas des bêtises, vous savez que ce ne sont pas des bêtises. Paul se retourne, dit à l'Esprit, « Je te l'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. La prière de délivrance, ce qu'on appelle parfois, j'aime pas ce mot-là parce que ça fait penser à des mauvais films, l'exorcisme est pratiqué dans la Bible. Je n'aime pas parce que souvent ça a une connotation, on vient avec une valise, et je ne sais pas avec tout quoi dedans, alors que non, voilà, alors que ce n'est pas comme ça. Ça va donc? Oui, peut-être et certainement, pas peut-être, peut-être en ce qui te concerne, mais certainement en ce qui concerne, en tout cas certainement ça existe, il y a des personnes qui ont besoin de véritables prières de délivrance. Voilà, peut-être pas ce qu'on appelle vraiment une possession, mais peut-être vraiment une emprise, un lien démoniaque et des choses comme ça, et c'est biblique. Voilà, et je ne vais pas m'éterniser là-dessus, je vous dis simplement que c'est biblique. Et à la limite, c'est le plus facile, parce que s'il ne s'agissait que de ça, c'est vite fait, n'est-ce pas? Alors, le danger de ça, c'est quoi? Le danger, c'est de croire que c'est la solution, vous voyez? Et c'est pour ça que je vous en parle en premier, parce que je n'ai pas grand-chose à dire, parce que ce n'est pas mon propos aujourd'hui. Le danger, c'est ça, c'est de croire que c'est la solution. Et finalement, c'est une solution qui arrange bien, parce que c'est une solution, quelque part, de paresse. Et je comprends. Moi, je voudrais bien que dans ma vie, je voudrais bien que les choses qui ne vont pas dans ma vie, je voudrais bien que simplement, il y ait un démon à chasser. Parce que c'est facile, c'est vite fait, et le problème est réglé après. Et j'ai aucun effort à faire, puisque c'est par la grâce, puisque c'est dans le nom de Jésus. Malheureusement, c'est pas comme ça. Et l'ennemi, dans nos vies, il agit plus subtilement, malheureusement. Donc voilà, c'est biblique, mais le danger, c'est de croire que c'est la solution suprême et qu'il n'y a que ça. Et je voudrais vous faire quelques remarques par rapport à ça. Parce que quand même, en passant mes points, j'aimerais quand même vous dire quelques petites choses qui concernent, bon, ici, qui concernent la prière de délivrance. Parce que même si ce n'est pas un enseignement complet, quelques petites choses quand même qu'il est bon de savoir. Sachez qu'il n'existe aucune parole. C'est important, vous savez, parce que des fois les chrétiens prient comme ça et tout ça, et c'est bien de balancer des petites choses comme ça. Alors j'en profite et je le fais. Il n'existe aucune parole ni aucune formule, peut-être que j'appellerais même formule magique, parce que le nom de Jésus, ce n'est pas une formule magique. Voyez, d'ailleurs, il y a une histoire dans la Bible, là où les fils de Sheva, c'est ça, je ne vais pas prendre le texte, mais ils ont voulu chasser les démons au nom de Jésus-Christ, mais ils se sont fait massacrer, hein. Enfin, je veux dire, ils sont partis tout nus, etc. C'est vraiment, ils ont été ridicules. Hein. Ça va? Et pourquoi? Parce qu'il n'existe pas de formule et de paroles qui ont une puissance. Les paroles n'ont pas de puissance en elles-mêmes. Vous devez savoir ça. Ce n'est pas ce qu'on prononce qui a de l'autorité. C'est Jésus qui est derrière. C'est lui le libérateur. Ce n'est pas la voix puissante de celui qui prie. Même si, bien sûr, pourquoi on fait comme ça? Mais moi, souvent, quand je prie, oui, ben, vous savez, vous êtes... On peut se contrôler, mais ça ne sert à rien. Vous êtes rempli du Saint-Esprit, et puis on ne va quand même pas non plus commencer à se retenir quand on prêche, se retenir quand on prie. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, moi, je sais, des fois, j'ai prié, et... Ah ben c'est dommage, tiens, j'aurais pu avoir un témoignage aujourd'hui, de mercredi passé, quelqu'un qui dit j'ai vraiment senti. Bon voilà, et parce que des fois la voix correspond tout simplement à... Enfin j'ai senti ce que Dieu a fait, pardon je finis pas mes phrases, j'ai senti vraiment ce qui s'est passé. Bon bref, la personne n'est pas là. Ce n'est pas, la puissance ne se trouve pas non plus dans la voix du prédicateur, de ceci, de cela ou la tienne, parce que tout le monde a le pouvoir de chasser les démons, non. Simplement souvent ça transparaît dans notre intonation, mais ça c'est autre chose. On ne joue pas la comédie. La puissance, elle est dans le nom de Jésus-Christ. Elle est en Jésus même. C'est lui le libérateur. Et il faut savoir une chose, c'est qu'après et même pendant, le chrétien pour qui on prie doit s'attacher au Christ. C'est cela qui délivre, rien d'autre. Il n'y a pas de puissance dans des mots. Vous voyez? Enfin, comprenez-moi, s'il vous plaît. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Nous sommes, nous qui prions, nous sommes serviteurs du Christ, vous qui priez. Et jamais nous ne parlons de notre propre autorité, mais nous faisons appel à son autorité. C'est Christ qui libère. Voilà, petite remarque. Deuxièmement, vous voulez être libre. Oui, il y a la prière de délivrance. Et il y a une autre chose dont je voudrais vous parler. C'est l'accompagnement spirituel. Je l'appelais comme ça. Certains parlent de relation d'aide parfois, mais c'est peut-être pas très approprié parce qu'on parle de relation d'aide en psychologie et un pasteur n'est pas un psychologue, même si c'est bien qu'il le soit un peu. Mais d'accord, et ceux qui font ça, voilà, c'est la cure d'âme, parce que c'est ce qui convient, parce qu'on s'occupe. Alors c'est un mot un peu barbare comme ça, mais c'est normal parce qu'on s'occupe de l'âme dans tous ses aspects. De l'âme de la personne pour qu'elle soit renouvelée en Christ, libérée en Christ. C'est pour ça qu'on dit la cure d'âme. Relation d'aide, vous voyez, c'est... Voilà, bon. Alors, un accompagnement spirituel. Voilà, et pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Mais parce que c'est aussi une solution que Dieu nous a donnée. Parce que c'est... Là aussi, c'est biblique. Et finalement, quand vous voyez les évangiles, quand vous voyez les lettres de Paul, mais... Quand vous voyez le travail qui est fait, mais il y a une grande partie du travail, même des lettres de Paul, par exemple, qui servent à ça. Bon, évidemment, c'est un accompagnement général, vous allez me dire, mais c'est le travail. À quoi ça sert un berger? À quoi ça sert? Comment on peut prendre soin de ses brebis si on ne les accompagne pas? Vous voyez? À quoi servent des anciens? À quoi ça sert tout ça? Vous voyez? Bon, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, c'est quoi? C'est quoi exactement l'accompagnement spirituel? C'est quoi exactement la cure d'âme? Dieu a voulu, bien sûr, vous le savez, qu'on porte les fardeaux les uns des autres, n'est-ce pas? Eh bien, la cure d'âme, c'est un accompagnement chrétien, tout simplement. Chrétien, vous voyez, j'ai bien insisté là-dessus. On ne joue pas au psychologue. Si quelqu'un avait besoin d'un psychologue, on lui conseillerait un psychologue. Bien sûr, si possible, chrétien, ce serait mieux. Voilà. Alors, par qui? Parce que ça, c'est important de vous dire. Parce qu'il y a quand même des choses à dire. Par qui? Qui pratique la cure d'âme dans les églises? Eh bien, les personnes qui ont été consacrées pour ça, formées pour ça, et pas les autres. D'accord? Ça, c'est vraiment important. Je veux vraiment insister là-dessus. C'est pas une exhortation, c'est un truc à dire, c'est tout. Tous les chrétiens ne pratiquent pas la cure d'âme. On ne pratique pas la cure d'âme si on ne vous l'a pas demandé. On peut s'encourager les uns les autres, mais on ne commence pas à faire un travail de suivi avec quelqu'un, aller visiter, commencer à essayer de régler ses problèmes, etc. Et finalement, le pasteur n'est même pas au courant. On ne fait pas ça. Parce qu'il y a beaucoup de dégâts. Alors, voilà, ben évidemment, vous parlez avec des personnes, et puis voilà, combien de fois on vient me dire, ah, tu sais, j'ai parlé avec tel, j'ai vu, il y a de ça, ça ne va pas, et tout ça. Et puis, vous le dites. Moi, je dis, avant, quand je n'étais pas pasteur, ça m'arrivait. Je dis, écoute, j'en parlerai peut-être un peu au pasteur, etc. Je dis, tu sais, voilà, il n'y a pas de secret, quoi. Vous voyez, il n'y a pas de. Enfin, si, des fois, il y a des secrets. Mais quand il y en a, justement, il y en a. D'accord? C'est important. On ne fait pas ça parce que c'est destructeur. Ce n'est pas le travail de tout chrétien de faire ça. Oui, nous encourager les uns les autres, nous soutenir les uns les autres, tout ça, oui. Mais l'accompagnement spirituel, c'est fait pour ceux qui ont été consacrés et formés pour ça. C'est pas pour les autres. Bon, voilà, ça, c'est important de le dire. Et je vous parle de ça parce que c'est important. Beaucoup ont besoin d'un accompagnement spirituel, je vous le dis. Mais reste sans. C'est un accompagnement vers la vérité, voyez ? Vers la révélation de certaines choses dans les vies, pour la liberté. C'est un travail important, pourquoi ? Parce que ça va permettre d'aller en profondeur, parce que les choses souvent sont cachées en profondeur. L'ennemi, quand il fait son travail, il va mettre les racines bien, il va chercher quelque chose bien en profondeur. Et la cure d'âme, la relation d'accompagnement, va permettre, c'est pour ça qu'elle est importante, c'est ça que je suis en train de vous dire, vous m'écoutez, hein ? Elle est importante parce qu'elle va nous permettre donc de comprendre dans quel domaine de votre vie, dans quel domaine de telle et telle vie, l'ennemi a fait quelque chose. Dans quel domaine de ta vie peut-être tu as été touché ? De comprendre quelles sont les portes d'entrée qui ont été ouvertes et qui ont donné accès, qui ont permis une influence démoniaque. Et ça, cet accompagnement va permettre, en parlant, en priant, de découvrir où les portes ont été ouvertes, comment l'accès a été donné à l'ennemi. Comment il a réussi à détruire ta liberté? Il faut comprendre. C'est un travail qui est important et qui se fait avec le Seigneur. On ne doit pas négliger ça. On n'est pas. Des fois, le chrétien, il est là, il voudrait toujours. Toutes choses sont nouvelles. En Christ, on est comme. Mais non, ça. Et puis ça ne va pas, je ne comprends pas. Ben oui. Il faut écouter les enseignements. Alors, il faut écouter, il faut lire ta Bible, il faut écouter les enseignements. C'est normal que ça ne va pas. Il faut aller chercher en profondeur. Et il y a des personnes qui sont là pour ça. Et croyez-moi, quand je vous dis ceci, mais si j'estime que je ne peux rien faire, je peux vous conseiller quelqu'un. Hein, voyez, je ne dirais pas, non, t'inquiète pas, moi, je ne sais rien faire de toute façon. Mais par la grâce de Dieu, des fois, on est étonné de ce que Dieu peut faire. Quand il nous appelle à faire quelque chose, il nous qualifie aussi. On est étonné nous-mêmes. Hein. Mais de toute façon, voilà, quand on ne peut pas, on ne peut pas, c'est tout. On va chercher plus loin, mais il y a toujours une solution. Le danger, parce qu'il y a des dangers aussi. C'est quoi ? Comme il y a un danger de croire que la prière de libération est la solution, il y a aussi un danger dans la cure d'âme et dans l'accompagnement spirituel, c'est de mettre tout son espoir et de reporter toute sa responsabilité sur le pasteur ou sur l'accompagnateur. Parce que vous êtes et nous sommes tous responsables pour nous-mêmes, de nos vies et de nos choix. Ça, c'est le danger. Quelques remarques, puisque je parle de ça. Et je ne voudrais pas m'étendre trop, mais quand même, vous dire quelques petites choses, parce que c'est intéressant, je pense, quand même, de savoir ça. Alors, je me suis dit, tout compte fait, c'est vrai, faire des études là-dessus. Après, finalement, il y a des choses qui n'intéressent que ceux qui vont être suivis et qui n'intéressent que ceux qui vont devoir suivre quelqu'un. Après tout, il y a des choses qui sont peut-être pas toujours intéressantes. Néanmoins, il y a quelques petites choses que je voudrais vous partager. C'est quand même intéressant. Voyez comme je fais, d'accord ? Ça va ? Voyez comme je fais. Je vous expose une chose, une deuxième, je vous fais quelques petites remarques, et puis j'arriverai à ma conclusion. Ça va ? J'essaye de recadrer dans votre tête pour que vous compreniez ce que je suis en train de faire. Voyez ? Ça va ? Prière de délivrance, accompagnement spirituel, je vous expose quelques petits points. Et je vous ai parlé aussi, faites attention, il y a du danger aussi. Si quelqu'un demande un accompagnement spirituel, et si cette personne a donc pratiqué, est impliquée dans des pratiques occultes, le chemin pour retrouver la liberté, c'est quoi ? Parce que ça, je voudrais répéter, parce que c'est à ça qu'on doit toujours arriver. C'est bien sûr d'accepter de se séparer de ces pratiques, oui, mais ensuite, c'est de confesser ses péchés. Vous voyez, c'est la même chose que la conversion, tout commence là. C'est pour ça que j'aurais presque envie de dire qu'il y a des conversions mal faites. Vous voyez, qui n'ont pas été assez en profondeur. On dirait qu'il y a des choses, des fois, qui restent. Vous voyez, enfin, c'est pas vrai, hein, ce que je dis. C'est peut-être pas très théologique ou je sais pas quoi, mais au moins, c'est pour que vous compreniez quelque chose. Vous voyez, parce que c'est un principe spirituel. Vous voyez, on reconnaît qu'on a besoin du pardon. On reconnaît qu'on est péché. On reconnaît qu'on a besoin du pardon. Et on est libéré du poids de ses péchés par la confession et par cette demande de pardon et par l'abandon du péché. Vous voyez, et c'est la même chose. C'est le même principe. Quand on veut retrouver ou trouver cette pleine liberté en Christ. Vous voyez, donc, alors, ça passe par là. Confession de péché, repentance, acceptation aussi du pardon de Jésus-Christ. On en a parlé ce matin. Acceptation. Parce que des fois, le problème, il vient que de là. Si tu n'acceptes pas que Jésus te pardonne, mais ça n'ira jamais. Si tu crois toujours que tu as besoin de faire quelque chose pour être dans la grâce de Dieu ou dans les grâces de Dieu, mais ça n'ira jamais. Si tu te trouves toujours trop misérable pour aller en première classe, mais tu n'iras jamais. Je vous le dis souvent, il y a une différence en dire « mon petit péché, c'est pas grave », parce qu'alors on refuse la sanctification. Mais personne n'est parfait. Vous voyez ce que je veux dire ? Je marche dans la sanctification, mais ce n'est pas parce que je trébuche encore sur certaines choses que je suis sur lesquelles je... Voilà, des choses que je confesse et que je reconnais que je suis rejeté par Dieu. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, je sais, ça mériterait peut-être une plus longue explication. Mais tu es dans la grâce de Dieu. Tu as le droit à cette première classe. Rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. Sachez aussi ceci, c'est que n'importe quel, parce que ça va vous aider, je pense, ça peut aider certains, peut-être pas tout le monde, et ça ne concernera peut-être pas tout le monde, et ça n'aidera peut-être pas tout le monde, mais je pense que c'est important que je le dise, voilà, soit. N'importe quelle participation à des pratiques occultes nécessite une confession. Vous comprenez ça ? N'importe quelle participation à des pratiques occultes nécessite un jour une confession, et ce qui s'ensuit, abandon, renoncement, etc. C'est important. C'est également le cas si on a participé à d'autres choses, comme si on a participé activement, je veux dire, bon, violent, on l'a tous aidé peut-être à un moment donné, verbalement, quoi, mais à de la violence, à de l'abus, quel qu'il soit, à de la domination, à de l'idolâtrie, etc. Je ne peux pas citer tout encore aujourd'hui, je l'ai fait la fois passée, enfin, on ne peut quand même jamais citer tout, mais voilà. On ne doit jamais... Je dis encore autre chose. On ne doit jamais, écoutez bien ça, s'il vous plaît, parce que je sais que je vous emmène un peu à gauche, à droite. Je sais bien que c'est, enfin, de manière structurée quand même, mais je sais parfois il faut vous rappeler de ça pour que vous écoutiez. Je sais, parfois c'est un peu comme un cours, parfois c'est fluide. Je sais que là, il y a des moments peut-être un peu plus difficiles. Bon, hop, attentif alors. C'est important. On ne doit jamais excuser sa propre responsabilité en mettant tout sur le compte des puissances ou de puissances extérieures, ou la faute sur une autre personne, ou la faute sur des circonstances aussi dramatiques qu'elles soient. Jamais on ne doit excuser sa responsabilité dans les choix qu'on a faits et les erreurs qu'on a faites. Parce que s'il n'y a pas confession, il n'y a pas réhabilitation, il n'y a pas pardon, il n'y a pas liberté, il n'y a pas délivrance. Vous voyez ? Et ça, c'est dramatique, c'est dommage. Parce que ça revient alors, si je dis, oui, mais les circonstances, tu te rends compte ce que j'ai vécu ? Tu te rends compte ce qu'on m'a fait ? Tu ne sais pas par où je suis passé. Oui, mais moi, je ne sais rien y faire. On entend des choses quand on fait un accompagnement spirituel. On entend des choses. Et c'est terrible, des fois. On pleure avec ceux qui pleurent. Mais on ne peut pas changer les vies, encore moins le passé. Il ne faut pas, jamais, tu ne dois pas trouver des excuses à tes propres choix et à tes propres décisions. Parce que c'est nier que Dieu t'a donné le libre arbitre. Ça revient à dire qu'on n'a pas de responsabilité personnelle. Et ça ne va pas, ça ne marche pas, vous voyez ? Ça ne marche pas, vous m'entendez ? Ça ne marche pas si on fait ça. Et le problème, c'est qu'il y a des choses dans des vies, je vous le dis aujourd'hui, dans cette petite parenthèse, il y a des vies, j'en suis certain. Et malheureusement, vous savez, parfois, ce n'est pas décourageant, c'est juste frustrant de savoir que des personnes qui ne sont pas là ont besoin d'entendre ça. Elles ne sont pas là, heureusement, vous êtes là, vous, et certains ont besoin d'entendre ça. Il y a des choses qui ne changent pas à cause des excuses. Ce n'est pas vraiment de ma faute. OK. On t'a fait du mal, tu as passé difficile, tu as été abandonné, etc., etc. Mais les choix, c'est toi qui les as faits. Et sans confession, sans repentance, il n'y a pas de solution, il y a stagnation. Ça ne changera pas, ça ne changera jamais. Il faut se repentir de ces mauvaises décisions et renoncer à tout ce qui est associé. C'est par là que passe le chemin de la liberté en Christ. Voilà ce que Dieu veut. Et lui, il accorde le pardon et il accorde la liberté. Mais il l'accorde à ce prix-là, même si je n'aime pas le mot prix, parce que le prix, c'est lui qui l'a payé, mais c'est le passage obligé. C'est seulement après, et vous voyez pourquoi je vous dis que j'ai parlé. J'ai commencé par la fin, parce que c'est seulement après qu'on peut s'occuper des puissances démoniaques. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Alors, si dans toutes ces choses, l'ennemi, puissance occulte, le diable, appelez ça comme vous voulez, a créé des liens, te tient, alors on peut s'en occuper. Mais d'abord, faut s'occuper de ça. D'abord, il faut faire ce travail-là. D'abord, ça doit être fait. Sinon, on perd son temps. Et puis, alors, on va dire, ouais, mais tout... Et puis, alors, c'est comme ça que les gens disent, ouais, mais finalement, ouais, est-ce que c'est vraiment vrai? Ça ne marche pas, ceci, cela. Mais bien sûr que ça marche. Évidemment que ça marche, je vous assure. Je vous assure que ça marche. Et j'aime pas, enfin, on pourrait donner des exemples. J'aime pas, enfin... Ça me met un peu mal à l'aise, vous savez pourquoi ? Parce que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pas nous, c'est pas moi, c'est Jésus qui fait... c'est lui, vous voyez, c'est pas mon autorité, c'est pas ma sainteté, c'est pas ma piété, c'est pas la vôtre non plus, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est lui, Jésus-Christ lui-même, j'ai même envie de dire. Évidemment que ça marche, mais c'est après qu'on s'occupe de ça. D'ailleurs, on ne chasse pas un démon d'une personne qui ne le veut pas ou qui ne le demande pas. À quoi ça sert? Puisque la Bible dit que, je vais vous lire peut-être, vite fait, Matthieu 12, verset 43. lorsque l'esprit est sorti d'un homme. C'est un enseignement important. Hein, ça. Bah, beaucoup le connaissent, mais tout le monde ne le connaît pas. Qu'est-ce qui se passe? Quand un démon est chassé et qu'il sort d'un homme, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il explique ici. Il part dans les lieux arides, ça veut dire où il fait chaud, où il fait soif. C'est imagé, évidemment. C'est imagé parce que ce n'est pas matériel. Et il cherche du repos, mais il n'en trouve pas. Alors, il dit, je retournerai dans la maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, il prend avec lui sept autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, ils s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération. Voilà. Donc ça veut dire que si la maison n'est pas remplie après du Saint-Esprit, s'il n'y a pas conversion, en bref, c'est plus facile de l'expliquer comme ça, ça ne sert à rien. La place est libre. Dites-moi, ceux qui habitent dans le coin de Bruxelles, là, quand il y a un bâtiment, plus ou moins abandonné, il ne reste pas longtemps abandonné, non? Il est vite squatté, hein? Bon, Molenbeek, vous savez que c'est bien, hein, il y a des jardins et tout ça, c'est beau. Mais bon, je ne sais pas, moi, peut-être ailleurs. Et c'est la même chose, d'accord? Ça va? Donc, la chose sur laquelle je voudrais insister, si tu cherches des excuses, moi, je peux te comprendre, hein, je peux pleurer avec toi. Vraiment, je peux avoir beaucoup de compassion quand j'entends des confessions, etc. Je dis, punaise, je ne sais pas comment j'aurais fait à ta place, etc. Mais ça ne change pas ta vie, ça ne change pas ton passé. Moi, ce que je dis, et c'est mon travail ici, c'est de dire ce que la Bible dit. Et s'il n'y a pas de confession, s'il n'y a pas de repentance, s'il n'y a pas de dénonciation, de reconnaissance pleine de ma responsabilité, et ça on en a parlé aussi la semaine passée, c'est comme Ève a fait, mais c'est le serpent. Et Adam, c'est Ève. Et puis nous, ben, c'est Adam et Ève. On n'en peut rien non plus d'ailleurs. Vous n'avez jamais entendu ça? Eh bien, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de restauration, il n'y a pas de libération. D'accord? Des excuses ou pas de confession, en bref, on peut résumer comme ça, égale pas de changement. Ça va? Comme ça, vous saurez. Alors, petit truc aussi à dire qui est bien, je pense. Forcément, je le pense, sinon je ne le dirai pas. Il est important aussi de découvrir, ça peut t'aider. Il y en a qui ne sont pas très branchés ici. Hein. Ils sont connectés, mais pas très branchés, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Non, c'est rien, Marianne, je plaisante. Mais je croyais que tu allais décrocher ton cornet. Voilà. Bon, il est important de découvrir d'où vient ce désir caché, parce qu'il est peut-être même caché pour la personne elle-même, de cet engouement qu'il y a eu ou qu'il y a encore pour les pratiques occultes. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi la personne a fait ça? Pourquoi se tourner vers des idoles? Pourquoi se tourner vers des saints? Pourquoi se tourner vers des statues? Pourquoi se tourner vers des fétiches? Pourquoi accepter des cadeaux? Débarrassez-vous si vous avez reçu des... Je vous le dis, hein. Si vous avez chez vous des choses que vous avez reçues, mais vous n'osez pas les jeter parce que c'est quelqu'un qui vous l'a donné, et vous savez que ça apporte bonheur, des choses comme ça, vous m'écoutez, vous ne m'écoutez pas. Mais tant pis pour vous. Jetez ça aujourd'hui. D'accord? Encore une petite parenthèse. Ah oui, parce que moi, je n'ai pas peur d'un objet. Hein, je m'en fous, même s'il a été l'objet d'un culte démoniaque, je m'en fiche. Ça ne me fait pas peur, ça ne me fait rien, c'est normal. Et à vous non plus, ça ne doit pas faire peur. Mais si tu l'as accepté chez toi, parce qu'on te l'a donné comme tel, trois petits points, vous avez compris, hein? Vous invitez, vous dites, mais bienvenue chez moi, hein? Satan, bienvenue chez moi. Bon, petite parenthèse. Alors, pourquoi la personne s'est attachée à des choses comme ça? Pourquoi elle a cherché ça? Qu'est-ce que tu cherchais? Qu'est-ce que la personne cherchait? La protection, je ne sais pas, un pouvoir, la richesse, la vengeance, je ne sais pas quoi. Eh bien, ça aussi, vous voyez, ce désir caché. Là aussi, vous voyez pourquoi l'importance de la cure d'âme. Ce désir aussi doit être reconnu, doit être trouvé, doit être recherché. Pourquoi ? Pour que Dieu, le Saint-Esprit, puisse trouver ce terrain, cet endroit, pour lui-même agir et habiter. Vous comprenez ? Vous comprenez ? Et souvent, le désir, il ne faut pas juger dans le sens négatif, il ne faut pas condamner les personnes qui ont fait des mauvais choix, parce que souvent, c'est à cause, parce qu'elles étaient parfois désemparées, parce que, je ne sais pas, voilà. Mais ça n'exclut pas notre responsabilité. Les racines de ces choses sont souvent cachées dans des blessures profondes. Et là aussi, il faut découvrir ces blessures profondes afin de les guérir, afin de trouver le pardon, afin de pardonner, afin de restaurer, afin de reconstruire. Voilà. Bon, je m'arrête là, j'ai terminé pour cela. Accompagnement spirituel. Voilà deux solutions déjà, voilà deux points pour trouver la liberté. Mais il y a une chose sur laquelle, et je vais terminer par ça, je voudrais vraiment insister. Prière de libération, accompagnement spirituel. Troisièmement, ta responsabilité. Ma responsabilité. Voilà un moyen pour trouver la liberté, prendre Dieu au sérieux. Prendre Dieu au sérieux. Croyez-vous croyez-vous que Dieu parle en vain ? La Bible dit ça. Croyez-vous que la parole de Dieu parle en vain ? La meilleure solution aux problèmes spirituels, c'est de prendre au sérieux les avertissements bibliques. La meilleure solution aux problèmes spirituels, c'est de ne pas épuiser les prédicateurs qui font souvent un boulot, parfois pour rien. Bon, ça c'est pour rire que je dis ça. Alors, prendre au sérieux les avertissements de Dieu, les avertissements bibliques, et pas seulement en ce qui concerne les ruses du diable, pas seulement les enseignements en ce qui concerne les ruses du diable, mais ça aussi évidemment, mais aussi sur tout ce qui concerne la vie de disciple. Et voilà quelque chose qui est important, ma responsabilité. Est-ce que je prends ma vie de chrétien au sérieux ? Est-ce que je prends au sérieux la sanctification ? Comment tu vis ta semaine ? Moi, je suis désolé, mais je me retrouve à dire quelque chose que je n'ai pas envie de dire parce que je sais que je l'ai déjà dit. Mais il faut que je le redise parce que nous sommes envahis par nos occupations, nos préoccupations, nos objectifs, nos ambitions, par la vie, par nos soucis, par toutes ces choses-là, et nous oublions que nous avons été rachetés pour être serviteurs et nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Pardonnez-moi de vous le redire une XXXième fois, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Et nous sommes, la plupart du temps, des chrétiens du... Pardon ? Dimanche, c'est bien. Matin. Mais c'est vrai, non ? Bon, vous devez savoir, sachez-le pour vous-même. Notre vie de disciple, la meilleure des solutions pour vivre dans la liberté, c'est de mettre sa vie en règle et de marcher dans l'obéissance à sa volonté. Je l'ai dit au début. Vous avez dit oui, c'est vrai. Beaucoup de gens savent ce qu'ils doivent faire, mais ne le font pas. Alors maintenant, j'en arrive au troisième point, et c'est comme je vous dis, j'ai fait tout à l'envers. Ça devrait être la première chose dont on parle, mais c'est parce que je veux conclure là-dessus et je veux insister là-dessus. Pourquoi les choses que je dois faire, je ne les fais pas ? C'est ça la question. Cette église doit changer. Vous comprenez ? Ça suffit. Pardonnez-moi, je le dis. Si je me fâche, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Alors si je me fâche, ce n'est pas contre vous, d'accord ? Ça va ? Bon, pas pourquoi, vous êtes comme moi, je suis comme vous. Mais contre les autorités démoniaques, etc. Ça suffit de décoller à la louange quand il est l'heure de commencer la prédication. Ça suffit. C'est à 10 heures qu'on doit être dans la louange. Et même avant, pour ceux qui viennent avant. Ça suffit. Il faut toujours qu'on retarde la louange. Parce que ça commence à être bien. Parce qu'à ce moment-là, on commence. Pourquoi ? Parce qu'on s'amène à l'église sec comme des bois morts. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Toute la semaine, on a vécu occupé par nos préoccupations, par nos problèmes, par notre vie, entre guillemets, alors que notre vie ne nous appartient plus. Et puis le dimanche, on vient se plaindre à Dieu. Et puis on vient le louer. C'est très bien, il faut le faire, continuer. Ou alors on ne vient même pas. Il y en a beaucoup qui ne sont pas là aujourd'hui. Quand tout le monde est là, on est 100. Vous êtes où ? Plus même. Vous êtes où ? Vous êtes découragé. Vous êtes fatigué. Et je m'adresse, j'espère qu'il y en a qui regardent, qui écoutent après. Vous êtes découragé, vous êtes fatigué. Vous vous laissez accuser. Pourquoi ? Parce que votre intimité avec Dieu, c'est comme ça. Ah, il n'y a plus l'image, je montre un zéro. Alors c'est zéro et demi, hein ? Je ne veux pas être méchant. C'est zéro et demi. Vous voyez, c'est ça le problème. Les choses doivent changer. On doit venir ici rempli du Saint-Esprit. Le matin, je me lève, je fais quoi ? La première chose, je prie. Moi, c'est ce que je fais, ce n'est pas pour dire moi, hein, ce n'est pas ça, parce que je ne suis pas parfait, loin de là. Je vois aussi mes manquements. Je m'éveille, je mets tout de suite ma musique, parce que moi, le matin, je ne suis pas du matin, alors je ne suis pas très... Voilà, chacun comme il est. Hein. Moi, le matin, je ne suis pas, ouais, je vais faire ça. Non, c'est, laisse-moi tranquille, hein, comme certains. Vous voyez, c'est un peu comme ça. Alors, comme je ne suis pas plein d'enthousiasme, je mets ma musique. Alors, voilà, je mets ma musique. Évidemment, pas n'importe quoi. Hein. Je commence à mettre des chants de louange. Oui, c'est vrai, c'est ça. C'est ça que je veux, Seigneur. Et je commence à prier. Et puis, je commence déjà à chercher. Et puis, je viens ici à 9h30 pour prier. Bon, évidemment... J'aime pas être impoli, alors je dis bonjour, parfois pas, etc. Mais bon, d'ailleurs, on va essayer de remettre ça en place, pour que ce soit compris plus. Bon, bref, et puis c'est pas seulement le dimanche matin, c'est quel temps ? C'est ça la question. Alors j'ai eu vraiment quelque chose... j'ai été perturbé, pas la nuit passée, la nuit avant-hier, parce que c'était avant ma préparation, où je me préparais à dire des choses, tout ça, je sais pas, puis... J'étais perturbé dans mon sommeil. Et je peux dire que le Seigneur m'a vraiment parlé. M'a donné une direction. Comme si le Seigneur me disait de dire ça. De dire quelque chose de simple à l'Église. Et cette chose est celle-ci. Quel est le sérieux de ta relation avec moi ? Tu en es où dans ton temps de prière ? Et de méditation, de la parole de Dieu, la recherche, pas la lecture. Là, j'ai lu mon verset. Puis, tu en es où dans ton intimité avec Dieu ? J'espère, mais je ne crois pas que c'est le cas pour tout le monde. J'espère que tu as un bon temps d'intimité avec Dieu tous les jours. Et si ce n'est pas le cas, il ne faut pas espérer que le dimanche matin, tout va changer, parce qu'on est dimanche matin. La vie du chrétien, ce n'est pas le dimanche matin. C'est tous les autres jours, c'est tous les autres moments. J'ai presque envie de dire, le dimanche matin, excusez-moi, hein, je vais peut-être être cru, mais le dimanche matin... On s'en fiche comme tu es le dimanche matin. On s'en fiche du sourire que tu affiches le dimanche matin. L'important, ce sont les autres jours. Et Dieu, quand tu viens au culte, tu viens rendre un culte à Dieu. Tu viens chanter les louanges à Dieu. Ça veut dire que tu viens exprimer. Je viens exprimer ma vie d'adoration de tous les autres jours. Et alors oui, ma vie peut changer. Je peux trouver la libération, la liberté. Si je prends ma vie, et ma vie de chrétien, et ma consécration au sérieux, il n'y a pas de liberté en Christ pour ceux qui marchent comme des boiteux. Si tu veux être un clochard spirituel, tu seras un clochard spirituel. Vous trouvez que je suis méchant ? C'est la réalité, c'est la vérité. Hein ? Il y a des gens, ils seront clochards spirituels toute leur vie. Je ne dis pas qu'ils ne seront pas sauvés, mais ils se plaindront toute leur vie. Et ça n'ira jamais. Et ce n'est pas parce que la Bible ment. Ce n'est pas parce que la parole de Dieu ne dit pas la vérité. C'est parce qu'ils ont fait des choix. C'est parce qu'ils ont décidé de consacrer leur vie à certaines choses et pas à ce que Dieu leur a demandé de faire. C'est tout. Comment je dois le dire ? Comment je dois le dire ? Alors oui, je parle peut-être aujourd'hui avec une certaine autorité, avec une certaine, ferveur. Mais je veux, de la même manière que Dieu le veut aussi, que cette église change. Quand on arrive le dimanche matin, on doit sentir que les chrétiens vivent une vie de sanctification, qu'ils aiment Dieu. On doit sentir que vous l'aimez, que vous arrivez ici avec ferveur, que vous êtes là, vous dites, je vais rencontrer mes frères et sœurs qui eux aussi cherchent Dieu. Et ça va, il va se passer quelque chose. On vient ici comme s'il n'allait rien se passer. Et quand Christophe va venir, on va être 20 plus. Et les chants, on va chanter avec 10 fois plus de cœur. C'est comme ça. Parce qu'on se dit que quand Christophe va être là, il va avoir des paroles de prophétie. Et alors, quand il n'est pas là, Dieu n'est pas là ? Quoi ? C'est vrai ou c'est pas vrai ce que je dis ? C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà comment ça se passe. Et ça ne changera pas si je ne décide pas de changer. Je viens un dimanche, l'autre je ne viens pas. Ça dépend des brocantes. Ah. C'est vrai, non ? Il va falloir faire écouter ça, hein ? Parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas là, ils doivent l'entendre. Alors oui, Dieu donne la liberté. Oui, je trouve la liberté en Christ. Oui, la vérité m'affranchira. Mais pas si je joue, hein ? Et donc, le troisième point le plus important, c'est le premier. Alors peut-être maintenant, je vais dire ceci, peut-être tu as besoin d'un accompagnement spirituel. Mais alors qu'est-ce que tu attends ? Si tu n'as pas confiance en moi, je te dirigerai vers quelqu'un d'autre. Si tu as peur que je parle, que je connaisse tes secrets, ou qu'un ancien ou quelqu'un qui a été consacré pour toi, viens te renseigner, je dirai qui a été consacré pour ça, ça va ? Ce n'est pas le temps de le faire. Mais c'est pas grave, hein ? J'ai autre chose à faire. Mais ne reste pas dans cette situation-là. Si tu as besoin, au fil du compte, d'une prière de libération, on la fera, c'est pas compliqué. Quand tout est désamorcé, quand on a déraciné, on le dit souvent, Satan, nous t'avons vu. Quand on t'a vu, c'est fini. Non ? C'est ça qu'on dit souvent. Hein, c'est un peu caricatural, mais c'est comme ça. Eh bien, quand ce sera fait, on chassera, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien de plus facile. C'est vraiment le truc, il ne faut pas commencer à... Je sais pas, moi, se mettre dans un... C'est vraiment le truc plus facile. Quelqu'un dit, oh, il y a une présence chez moi. Bon, écoute, j'ai 5 minutes, là. Ça va, je viens. Bon, j'exagère, mais c'est un peu comme ça. Ok, je viens, 5 minutes. Bon, écoute, je n'ai pas le temps de parler, mais je vais prier. Ça va ? Au nom de Jésus-Christ, je m'adresse aux puissances. Je vous ordonne de partir au nom de Jésus. Je ne vous donne pas l'autorisation de rester ici. Enfin, je ne sais pas, je fais un peu ça, un peu. Je blague un peu, mais ce n'est pas blaguer, c'est la réalité. Je pars, 5 minutes, et c'est fini. Ce n'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème, vous voyez ? Non. Le problème, c'est que nous sommes des irresponsables. C'est que nous disons le dimanche matin que nous voulons une église qui se remplit, qui grandit, qui vit dans la sanctification, où on sent la présence de Dieu, oh, etc., etc. Mais on ne paye pas le prix dans notre vie pour que ces choses-là arrivent. Et je le répète, on vient le dimanche matin sec comme un bois mort. Alors ça ne va pas. Alors ça ne changera pas. Alors veux-tu que ça change ? Tant que nous continuerons à pécher volontairement, parce que manquer le but, c'est pécher. Je ne vais pas vous le répéter, mais je vous le répète quand même. Pécher, c'est manquer le but. C'est quoi ton but ? Je voudrais savoir. Quel est le but que Dieu t'a donné ? Il y a des choses, dis pas, ouais, mais moi je ne sais pas, etc. Pff, ta, 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 ta. Il y a des choses que tu sais. Quel est le but? Si je manque le but, je pêche. Si je pêche et je continue à pêcher volontairement, parce que c'est ça, si je continue à ignorer le but que Dieu m'a donné, et je termine, vous en inquiétez pas, parce que je sais qu'il y a la brocante, vous allez souffrir. Comme l'a dit, je vais citer Joyce Meyer, il y en a qui l'aiment bien ici. Elle disait ceci, « Il n'y a rien de plus misérable qu'un pécheur né de nouveau. » Elle aurait dû dire, « Il n'y a rien de plus misérable que quelqu'un né de nouveau qui reste un pécheur. » Vous voyez, c'est ça qu'elle veut dire, évidemment. Hein? « Il n'y a rien de plus misérable qu'un pécheur né de nouveau. » Tu es né de nouveau, mais tu restes un pécheur. Alors que nous persistons consciemment à faire ou à ne pas faire ce que Dieu demande, ou à faire ce que Dieu ne veut pas qu'on fasse, à pécher, à manquer le but, alors que tu persistes, tu vas connaître. Je ne veux pas être un corbeau, un oiseau de mauvaise augure, mais je vous dis la vérité. Hein? C'est la Bible qui... Voilà, c'est comme ça. Je vous dis la vérité. Tu vas connaître un genre de souffrance qui ne s'en va jamais. Il y a des genres de souffrances qui ne s'en vont jamais. Des insatisfactions, des ceci, des ça. Ça ne s'en va jamais. Ça ne s'en va jamais. C'est normal. Et ça ne s'en ira jamais tant que je serai un irresponsable. Alors, as-tu besoin d'une prière de délivrance? Pas de problème. As-tu besoin d'un accompagnement? Pas de problème. Mais prendre décision aujourd'hui d'être un chrétien du dimanche après-midi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Prie, cherche la face de Dieu, jeûne. Moi aussi, je me dis, je dois jeûner plus souvent. C'est pas facile, bon. Parce qu'il y a quelque chose dans le jeûne. Je l'ai encore expérimenté dernièrement. Il y a quelque chose dans le jeûne. Est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu pratiques de temps en temps le jeûne? Un jour que tu mets à part, où tu te consacres à Dieu? Alors voilà. Je termine en disant ceci, je termine vraiment. Paul dit aux Galates, c'est au chapitre 5, verset 16, « Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre. Et c'est impossible de faire ce qu'on veut parce qu'ils sont opposés l'un à l'autre. Et il n'y a qu'une seule solution pour ça. Et là, moi, je complète ce que Paul a dit. Puisque Paul a bien dit qu'il ajoutait aux souffrances du Christ, je peux bien dire, moi, que j'ajoute aussi à ce que Paul a dit. Et de toute façon, je n'ajoute pas parce qu'il le dit lui-même autrement. Tu ne peux pas marcher par l'Esprit si tu n'as pas une vie de prière. Tu ne peux pas être rempli de la présence de Dieu si tu ne cherches pas la présence de Dieu. Alors pratique la prière, pratique le jeûne et obéis. Amen. C'est tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Parce qu'il faut que l'Église change. Il faut qu'il se passe quelque chose. Ça va se passer quand? Ça va se passer quand? Quand est-ce que l'Église va se remplir? Quand est-ce que ça va changer? Quand? Quand il va y avoir une plénitude de l'Esprit, etc., etc., et toutes les choses. Quand ça va se passer? On attend quoi? La venue du Saint-Esprit? Il est déjà là. Ah ouais? C'est vrai, hein? On dit souvent ça en blaguant, on dit, t'attends quoi, la venue du Saint-Esprit, il est déjà là. Mais voilà, ça s'applique pour nous, il est déjà là. C'est pas nous qui attendons, l'erreur c'est d'attendre. Parce que c'est Dieu qui attend, c'est Dieu qui t'attend, c'est Dieu qui attend l'Église. Et c'est le jour, c'est aujourd'hui. Amen.